La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue, cet appel sur l'actualité, votre émission chaque matin pour comprendre et débattre du monde. Une nouvelle semaine débute et comme toujours, vous serez confrontés aux fausses nouvelles. Les fake news pullulent sur les réseaux sociaux, dans tous les pays, sur tous les continents. Alors comment lutter contre leur propagation? Faut-il légiférer, donner plus de contraintes aux plateformes? Comment vous informez-vous en ligne? On en a parlé sur l'antenne ce week-end de Facebook, par exemple, a décidé d'élargir sa chasse aux informations frauduleuses à 10 langues nationales africaine. Alors est-ce une bonne chose? Est-ce que ça va marcher? Nous attendons vos commentaires dans une demi-heure, c'est notre débat du jour. Vos rendez-vous par téléphone 33 9 693 693 70 sur la page Facebook de l'émission pour vos messages ainsi que sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, comme chaque matin, la rédaction de RFI se mobilise avec nos experts pour répondre à vos questions sur l'actualité. Direction Yamoussoukro pour commencer. Bonjour Adia.
Bonjour, merci.
Adiako, vous suivez la situation à Hong Kong avec attention et vous souhaitez des précisions sur la mobilisation dans cette ville.
Oui, suite aux manifestations à Hong Kong, les forces chinoises sont massées dans la ville chinoise Shenzhen, au port de Hong Kong. La Chine aura-t-elle le droit d'intervenir militairement à Hong Kong? Pourquoi les manifestants ont-ils décidé de passer outre des avertissements?
Alors, on va le demander à Stéphane Lagarde, correspondant permanent de RFI à Pékin. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane, on a vu ces vidéos hein, de soldats chinois s'entraînant dans un stade de Shenzhen, la grande ville voisine de Hong Kong. On a vu les camions de transport de troupes. On a entendu les menaces d'intervention de l'armée chinoise. Alors, est-ce que c'est une issue plausible et est-ce que cette intervention chinoise serait légale ou légitime?
Alors, une intervention est possible, François, au titre de l'article 14 de ce qu'on appelle en anglais, la Basic Law de Hong Kong, la loi fondamentale de la région administrative spéciale, et la loi est très claire à ce sujet, à moins que la Chine, à moins que Pékin ne déclare l'état d'urgence à Hong Kong, et pour cela, il faudrait, je crois, réunir le Parlement chinois de Pékin, toute intervention militarisée des forces continentales ne peut se faire qu'à la demande des autorités hongkongaises. C'est très clair, l'exécutif hongkongais peut demander au gouvernement central, donc à Pékin, fort pour maintenir l'ordre public ou en cas de catastrophe naturelle, par exemple, envoyer des soldats pour aider la population, sachant que la police armée du peuple, François, dispose déjà d'environ 5000 hommes hein, dans les casernes de la région administrative spéciale, donc à l'intérieur du territoire hongkongais. Mais évidemment, cela aurait un coût politique et économique énorme pour la Chine, car c'est tout ou rien si Pékin décide d'envoyer la force, plutôt la police armée. Hein, d'ailleurs, on ne serait pas dans un scénario a priori à la Tiananmen avec l'armée du peuple, mais plutôt la police armée du peuple. Il faudrait beaucoup plus qu'un stade, comme on l'a vu sur les images dont vous parlez à Shenzhen, donc aux portes de Hong Kong, pour mater un mouvement qui a réuni jusqu'à 2 millions de personnes. Hein, souvenez-vous, le 16 juin dernier, 30% de la population, et encore hier, plus d'un million de personnes dans les rues de la ville. Donc il faudrait beaucoup de monde. Hong Kong n'est pas le Xinjiang, même si la police armée du peuple est spécialisée dans la lutte anti-émeute en milieu urbain. La bataille contre des jeunes manifestants déterminés hein, dans une capitale qui est quand même, enfin dans un territoire avec une capitale des gratte-ciels, hein, c'est la ville qui compte le plus de gratte-ciels au monde. Hong Kong serait compliquée et en tout cas, il faudrait beaucoup d'hommes. Il faudrait ensuite des places pour enfermer les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de protestataires qu'on aurait arrêtés, avec probablement, François, des réfugiés, puis un coût économique. Ce serait tout simplement la fin du modèle « un pays, deux systèmes », donc décidé par Deng Xiaoping.
Et justement, cela ne refroidit pas hein, les manifestants qui ont bravé la pluie encore ce week-end par centaines de milliers, vous le disiez, Stéphane.
Oui, tout simplement parce qu'ils pensent, ces manifestants, que c'est la dernière chance pour eux hein, d'éviter ce qu'ils considèrent comme une emprise accrue du régime sur les institutions et notamment sur la justice. Comme lors des manifestations contre la loi sur la sécurité en 2003, la bataille contre la loi sur les extraditions est un symbole pour ces protestataires, pour les opposants. En tout cas, cette loi, si cette loi n'est pas retirée, ça serait encore une fois la fin de ce modèle un pays de système.
Adiako, vous avez une autre question pour Stéphane Lagarde?
Oui. La Chine pourra-t-elle entendre l'appel de Donald Trump à une résolution humaine de cette crise politique?
Alors Donald Trump a appelé à une résolution de crise pacifique de manière humaine. Stéphane, il a aussi menacé la Chine de ne pas progresser sur la question de la guerre commerciale entre les deux pays. Comment la Chine reçoit-elle ces signaux et est-ce que ces signaux ont une influence sur Pékin ?
Alors assez mal parce qu'effectivement en Chine d'abord on n'aime pas du tout, le régime chinois n'aime pas ce qu'on appelle de l'ingérence ici, c'est-à-dire qu'on s'occupe des affaires intérieures d'un pays. Puis surtout Trump avait dit, pas le contraire, mais en tout cas avait dit presque l'inverse au début du mois en disant que Hong Kong était finalement un problème interne à la Chine. Donc c'est assez mal reçu ici, c'est surtout utilisé par la propagande pour dire, eh bien, attention, c'est la mainmise de, vous voyez bien, les États-Unis s'occupent de Hong Kong. Alors effectivement, Trump redit que ça va gêner encore les négociations commerciales, et c'est vrai que c'est très tendu avec la guerre commerciale, donc il peut utiliser...
À Stéphane Lagarde, on vous a perdu. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Oui, parce que tout simplement...
Stéphane, merci. Merci à vous d'avoir été en ligne. On a perdu la ligne de Pékin. Merci également à Adiako qui était à Yamoussoukro. Adiako, je vous encourage à suivre bien sûr l'actualité sur RFI pour avoir un maximum de réponses et d'informations sur la situation à Hong Kong que nous suivons avec Stéphane, mais aussi avec Abla Junaidi qui est en ce moment envoyé spécial de RFI sur place. Direction maintenant Lukolela, c'est dans le centre-est du Congo, sur les rives du fleuve du même nom. Bonjour Alain. Alain, est-ce que vous êtes là ? Alors, nous n'avons pas Alain. Peut-être avons-nous du côté de Kinshasa, Regan. Bonjour, Regan. Alain, vous êtes là. Non, Alain n'est pas là. Alors, on va relayer les questions d'Alain auprès de Francis Perrin, qui, lui, doit être avec nous. Bonjour, Francis.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste des questions énergétiques, et notre auditeur avait des questions suite à la dernière allocution télévisée du président congolais Denis Sassou Nguesso, lors de laquelle il a affirmé qu'un gisement de pétrole avait été découvert dans la région dite du delta de la cuvette, c'est-à-dire la région dans laquelle habite Alain, près de la région de Lukolela et de celle d'Oyo, qui est le fief de la famille Sassou Nguesso. Alors Alain voulait savoir quel impact aurait cette découverte sur la production nationale. Est-ce que vous pensez, Francis Perrin, que ces annonces, et notamment les projections de quadruplement de la production pétrolière congolaise, sont-elles réalistes, selon vous, ces annonces ?
Ces annonces sont complètement fantaisistes. Et j'attire l'attention de vos auditeurs, surtout ne pas penser que la production pétrolière du Congo va être multipliée par 4 dans les années qui viennent. Le Congo est un petit producteur de pétrole, aujourd'hui environ 350 000 barils par jour. Rappelons que la production mondiale de pétrole est de 100 millions de barils par jour. La découverte d'un nouveau gisement, évidemment, va permettre d'augmenter cette production, mais dans des proportions beaucoup plus faibles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'informations techniques fiables sur cette découverte pour préciser, pour quantifier l'impact sur l'augmentation de la production pétrolière future du Congo. Donc il faut rester très prudent et faire très attention à des chiffres qui font le tour du monde sur Internet, mais qui ne reposent sur rien de sérieux.
Et d'ailleurs, Francis Perrin, ce gisement, il va être exploité par un homme d'affaires proche du chef de l'État, c'est Claude Wilfried Etoka, qui est le patron des deux groupes concessionnaires, hein, la SRPD Oil et la PEPA.
C'est exact, effectivement, ce sont les deux sociétés qui détiennent ce permis sur lequel ce gisement a été découvert. Alors bien sûr, lorsque l'on passera, et on n'en est pas encore là dans le processus pétrolier, à une phase de développement du gisement et plus tard à la phase de sa mise en production, la compagnie nationale congolaise, la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, interviendra également dans ce consortium. Mais ce sont effectivement les sociétés, ces deux sociétés privées et la société d'État qui seront concernées. Évidemment, ces sociétés peuvent bien sûr chercher à faire venir d'autres partenaires dans le consortium en vendant une partie de leur participation dans ce permis. Mais là encore, ce sont pour l'instant des spéculations.
Francis Perrin, vous restez avec nous. Nous allons à Lukolela où on a retrouvé Alain. Alain, bonjour.
Oui, bonjour.
J'espère que vous avez pu entendre les premières explications de notre spécialiste. En tout cas, vous aviez une dernière question pour lui. Je vous laisse la poser.
Oui, ma dernière question, quels sont les risques environnementaux de ces gisements ? car cette zone regorge des tourbières.
Oui, Francis Perrin, hein, Denis Sassou-Nguesso a promis une exploitation responsable du gisement, mais quels sont les risques concrètement ?
Oui, merci à Alain pour sa question. L'industrie pétrolière et gazière est une industrie qui est risquée. On le sait depuis des dizaines d'années, elle pose des problèmes de sécurité et d'environnement pour les travailleurs de l'industrie du pétrole et pour les populations environnantes. Alors là, il s'agit d'un champ à terre, ce qui est évidemment moins complexe qu'un champ en mer, en offshore, comme disent les pétroliers. On sait, cela dit, comment réduire les risques qui sont importants de cette industrie par une législation et une réglementation adaptées, par la présence de sociétés compétentes sur le plan technique et aussi par le rôle de l'État qui est censé superviser l'activité des sociétés pétrolières et gazières, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Dans le cas de ce gisement, dans ce bassin de la cuvette, comme Alain le rappelle, l'un des problèmes à suivre de près, c'est la présence de tourbières, et on sait le rôle que jouent ces tourbières dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Donc ça suppose que l'État congolais et aussi la société civile, les organisations non gouvernementales, des organisations internationales, soient très vigilantes sur les plans qui ultérieurement seront mis au point et présentés sur la protection de ces tourbières. C'est un point d'attention, un point de vigilance qui concerne au premier chef l'État congolais, mais la société civile a aussi son rôle à jouer, et de plus en plus, heureusement, dans l'industrie pétrolière et gazière.
Merci Francis Perrin d'avoir été en ligne avec nous, et merci Alain d'avoir posé ces questions sur ces annonces du gouvernement congolais que donc notre spécialiste a qualifié de fantaisiste. D'un Congo à l'autre, direction Kinshasa, Regan nous attend, bonjour.
Bonjour RFI, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Regan, habitué de l'émission, merci de votre fidélité. Vous avez ce matin des questions sur la situation économique de l'Allemagne.
Bien sûr François, l'Allemagne, une des grandes économies européennes, a connu ces derniers trimestres une baisse du PIB de l'ordre de 0,1%. Et du coup, je voudrais savoir comment expliquer cette situation quand on sait que l'Allemagne est quand même parmi les bon maître en matière d'économie. Et puis, est-ce que cette situation est-elle liée au Brexit? Je m'interroge également pour savoir, est-ce que cette situation peut avoir de l'impact sur l'économie européenne?
On va le demander à Pascal Thibault, notre correspondant à Berlin. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour François, bonjour Regan.
Alors l'Allemagne voit planer le spectre de la récession au-dessus de sa tête. Quelles sont les raisons de la détérioration de l'économie allemande?
Oui, effectivement, puisque au deuxième trimestre, on l'a appris il y a quelques jours, le produit intérieur brut de l'Allemagne a reculé de 0,1%. C'est surtout dû à une baisse des exportations dans ce pays pour lesquels les ventes de produits made in Germany à l'étranger constituent un pilier central de l'économie. Il y a un certain nombre de choses qui expliquent ce recul, les risques qui pèsent sur les relations commerciales internationales avec de possibles droits de douane supplémentaires. On pense à la politique protectionniste des États-Unis avec des conflits commerciaux. Effectivement, ça a été évoqué, les risques du Brexit. La Grande-Bretagne est un pays important en Europe, un partenaire commercial important de l'Allemagne. De nombreuses entreprises allemandes y ont des succursales et certaines même des sites de production. Donc tout cela s'est ajouté pour expliquer ce recul des exportations et aussi une baisse des investissements des entreprises. Alors que la demande intérieure reste bonne et explique qu'il n'y a pas eu un recul encore plus fort de la conjoncture allemande. Les salaires ont augmenté, le chômage est au plus bas, ce qui explique qu'on n'ait pas eu un recul plus fort de la conjoncture.
Pascal, est-ce que le ralentissement à Berlin a des conséquences pour ses voisins ?
Ben, c'est sûr que si la santé de la première économie européenne se détériore, ça peut avoir des conséquences, puisque ça signifie aussi que il y aura peut-être peut-être des conséquences sur les échanges commerciaux entre ces différents pays. L'Allemagne actuellement est plutôt lanterne rouge parmi les pays européens en matière de croissance, puisque cette année les prévisions du gouvernement allemand tablent sur un demi-point de croissance du produit intérieur brut contre le triple l'an dernier, et c'est un score par exemple relativement plus faible que celui qui est attendu pour cette année 2019 en France.
Regan, une dernière question pour Pascal Thibault.
Oui, c'est quand même une situation intéressante. J'aimerais savoir quelles sont les mesures prises par les autorités allemandes pour contrer cette baisse du PIB.
Alors Pascal, nombre d'économistes ont appelé le gouvernement à utiliser ses marges budgétaires pour lancer un plan de relance, de soutien de l'économie, mais ils ne sont pas entendus par la coalition.
Oui, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mesures concrètes de prise. La chancelière Merkel a répété la semaine dernière qu'elle ne voulait pas de relance conjoncturelle qui signifierait une augmentation de la dette, alors que le budget est à l'équilibre à nouveau cette année, comme c'est le cas depuis plusieurs années. C'est également ce qu'a souligné le ministre des Finances. Mais il est vrai, vous le disiez, que de plus en plus de partis politiques, à gauche bien sûr, mais aussi d'économistes, et y compris des économistes conservateurs ou même des milieux d'affaires qui ne sont pas traditionnellement partisans d'une dérive budgétaire, eh bien, toutes ces voix plaident pour que l'Allemagne utilise les marges budgétaires dont elle dispose, investisse plus, notamment dans les infrastructures où un certain nombre de lacunes sont à combler, pour des soutiens pour l'investissement des entreprises avec des incitations budgétaires. Actuellement, la Grande Coalition, par exemple, se querelle aussi en ce qui concerne les impôts sur l'avenir de cet impôt de solidarité qui doit être supprimé, qui avait été créé pour financer la réunification, et on ne sait toujours pas quand et à quel rythme il sera supprimé, ce qui évidemment peut soutenir l'activité, mais pour l'instant ce n'est prévu qu'en 2021.
Merci Pascal Thibault d'avoir été en ligne avec nous de Berlin, et merci à Regan qui est fidèle à Kinshasa. Dernier en ligne ce matin, Rafiou, bonjour.
Bonjour.
Rafiou, vous êtes au Caire et vous avez des questions football.
C'est Bara, Sénégal, à Dakar.
Alors, une petite erreur sur ma fiche. Donc, vous êtes au Sénégal et vous vous inquiétez pour Sadio Mané, pas sélectionné parmi les trois finalistes du prix de l'UEFA de l'année.
Voilà, c'est ça la question. Comment donc expliquer l'absence de Sadio Mané au podium des joueurs nominés au titre du joueur de l'année de l'UEFA 2018-2019.
Voilà, on va le demander à Tom Rossi, bonjour.
Bonjour François, bonjour Barra, bonjour à tous.
Les trois nommés, donc Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk. Pas de Mané, comment on l'explique?
Ouais, c'est vrai que son absence en a surpris plus d'un, notamment l'ancien international sénégalais Eladji Diouf. Il a carrément parlé d'une liste écœurante et anormale. Et c'est vrai que les statistiques, elles parlent pour Mané. Il a terminé comme meilleur buteur de Première Ligue avec 22 buts. Il a remporté la Ligue des Champions avec les Reds, atteint la finale de la Coupe d'Afrique avec les Lions du Sénégal, terminant d'ailleurs dans l'équipe type de la CAN. Et puis au-delà des chiffres et des titres, Mané impressionne par sa régularité, son explosivité, son efficacité. On l'a encore vu cette semaine, il a inscrit 3 buts en 3 jours. Mais voilà, Mané, vous l'avez dit, a été devancé par Messi, Ronaldo et Van Dijk, des joueurs tout aussi incroyables dans leur registre. Van Dijk, c'est le rock néerlandais qui a été sacré meilleur joueur de Première Ligue. Et c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Finalement, de voir un défenseur intégrer cette liste, c'est une première d'ailleurs. Non, ce qui étonne surtout, c'est de voir encore Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pour Messi, le champion d'Espagne pour la deuxième fois d'affilée, il a encore dépassé la barre des 50 buts inscrits, toutes compétitions confondues, la saison dernière, et ce pour la 11e année d'affilée. De fait, il a inscrit deux fois plus de buts que Mané, donc si on s'en tient aux chiffres, difficile d'écarter l'Argentin.
Et qu'en est-il de Ronaldo, en tout cas?
Eh bien, on l'oublie, mais contrairement à Mané, il a soulevé un trophée avec sa sélection cette saison. Avec le Portugal, il a soulevé le trophée de la Ligue des Nations. C'était face aux Pays-Bas en juin. Bon, c'était une compétition mineure, certes, mais ça compte. Il est champion d'Italie avec la Juventus. Il a encore inscrit plus de 40 buts la saison dernière. Et seule ombre au tableau pour lui, une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions. Et sachez que depuis la création de ce prix en 2011, Ronaldo a toujours figuré dans la liste des trois meilleurs joueurs.
Donc. Alors, Sadio Mané, pas dans cette liste, est-ce que ça veut dire qu'il n'a aucune chance d'avoir le ballon d'or?
Ballon d'or africain sans doute, mais le ballon d'or tout court, ça semble très compliqué, on peut jamais être définitif. Ce sera en décembre pour le ballon d'or, mais les 5 derniers ballons d'or avaient auparavant été sacrés meilleur joueur d'Europe juste avant. Le dernier en date, c'était Luka Modric, le Croate.
Merci Tom Rossi d'avoir été avec nous, et merci de nous écouter, Rafiou à Bara au Sénégal. Vous restez avec nous. On revient dans 10 minutes, juste après le journal.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.